Père Seigneur, dans le nom de ton feu Jésus, je te remercie pour le temps qu'on va avoir dans ta parole. Seigneur, ce qu'on veut, c'est que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruis, que tu nous montres le chemin. On veut marcher en communion avec toi. On veut apprendre à développer cette communion avec toi. Apprendre à chercher ta face. On veut être à la recherche de Dieu dans nos vies. Que ton Saint-Esprit nous conduise par ta parole. Enseigne-nous tes voies, puis merci de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On a vu la semaine passée qu'on devait être à la recherche de Dieu, puis de le rechercher de tout notre cœur. Puis si on le recherche de tout notre cœur, Dieu, il a dit que celui qui cherche, trouve. Dieu veut se révéler aux humains, il veut pas cacher sa face. Il veut se révéler, il veut que tout le monde le connaisse. Puis il veut aussi que tout le monde connaisse son plan de salut, parce qu'on a besoin d'être sauvé. J'espère que je vous apprends rien, que vous aviez besoin d'un sauveur à cause de nos péchés, à cause de tout ce qu'on a fait, puis tout ce qu'on a hérité en Adam. On était perdu, on a besoin d'un sauveur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une continuité de la semaine passée. Dieu veut nous bénir, il y a des projets qu'il a formés pour nous, mais il faut qu'on apprenne à lui faire confiance et à lui remettre notre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être à la recherche de Dieu? Parce que ça peut sonner différemment dans la tête de chaque personne. Être à la recherche de Dieu, le gars il dit, moi je fais le tour des églises, puis je me promène, puis je regarde les différents dieux qui existent dans ce monde. Pour certaines personnes, c'est ça. Ils se promènent d'un pays à l'autre, puis ils vont dans les temples de Bouddha, les temples des dieux hindous. Ils font le tour, ils cherchent Dieu. Fait que là, en cherchant Dieu, ils cherchent partout ce qu'ils peuvent pour essayer de trouver Dieu. Mais ça veut pas dire qu'ils l'ont trouvé. Ça veut pas dire qu'ils ont trouvé Dieu. Mais ils cherchent. Puis être à la recherche de Dieu, Dieu dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver Dieu? Il y a différentes façons de voir les choses. On a vu qu'il est important d'aller à Dieu, de chercher sa face, si nous voulions recevoir ce qu'il y a en réserve pour nous. Dieu a des projets. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous conduire. Il veut vous enseigner. Il veut vous guérir, il veut vous délivrer, il veut vous remplir de son Saint-Esprit, il veut vous revêtir de sa puissance, il veut vous donner les dons spirituels, il veut vous donner ses fruits, il veut vous donner son armure, il veut vous équiper. Il veut nous donner aussi la révélation de sa parole. On a plein de choses à recevoir de Dieu. Il est important de s'adresser au vrai Dieu. La Bible dit, il y en a juste un Dieu créateur de toutes choses. Il n'y en a pas deux, ce ne sont pas trois qui sont partagés. Ils ont travaillé à temps partiel, chacun de ces dieux-là, pour créer l'univers. Non, il y a juste un seul Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est le Dieu qui révèle sa parole, qui a révélé sa parole au peuple juif. Puis ça nous est resté aujourd'hui par écrit. On a l'Ancien Testament, on voit toute l'histoire de la création, comment ce Dieu-là s'est révélé. Puis on a le Nouveau Testament, ce Dieu-là est venu nous parler directement en personne. Il est venu nous dire, c'est à quoi le chemin? Il est important d'aller à Dieu, puis de chercher sa face, puis de marcher d'une manière pour lui plaire, afin de demeurer en communion avec lui. Comme qu'on l'a vu, on est des pécheurs, puis à cause de ça, on était privés de tout ce que Dieu voulait nous donner. Puis la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus l'a confirmé même, que le salut, pour être sauvé, il aurait fallu mettre en pratique toute la loi, mettre en pratique tous ses commandements, si on aurait voulu être sauvé. Puis, je suis sûr que vous les connaissez, ces commandements. On n'énumérera pas ces commandements, mais on va voir Jésus, quand il a parlé à certaines personnes qui cherchaient à avoir une réponse. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, dans Luc 10, le verset 25 à 28, ça nous parle de ce passage-là. Un docteur de la loi se leva puis dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » On veut être sauvé, on veut connaître ce vrai Dieu-là, on veut l'avoir, la vie éternelle. Jésus lui a répondu une parole qui est quand même étonnante. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu sais, quand on parle de rechercher Dieu, mais il dit, le commandement dans la loi, c'était, aime-les ce Dieu-là. Tu veux le rechercher, aime-les de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, puis aime ton prochain. Jésus a dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Wow! On venait d'avoir la recette, comment faire pour être sauvé? Comment faire pour avoir la vie éternelle? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Sois à la recherche de Dieu, de toute ton énergie, de ton être tout entier, c'est ça que ça veut dire. Puis en plus, aime ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes, aime les autres. Là, il dit, fais ça, tu vas vivre. Je pense qu'il a pogné un nœud. Il a pogné un down, celui qui a entendu cette parole-là. Puis même nous, si on est sincères avec nous-mêmes, on pognera un down en écoutant cette parole-là. Y a-tu un de nous qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force depuis qu'il est au monde?
Ben non.
Puis y a-t-il quelqu'un de nous qui a aimé son prochain comme nous-mêmes tout le long de notre vie depuis qu'on est au monde? Les deux bras venaient du tomber à terre, sûrement, comme nous aussi. Jésus est en train de nous dire, tu connais la loi, c'est écrit dans la recette pour être sauvé. Il dit, fais cela et tu vivras. Mais il n'y a personne qui était capable de faire ça. On voudrait être à la recherche de Dieu. Puis on recherche Dieu des fois, des bouts, par petits bouts. Une journée, on peut être bien motivé, puis là, on se met à prier, puis on peut prier un gros 15 minutes. On l'a-tu aimé de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, toute la journée? Après ça, on se tourne vers d'autres choses, puis on pense à toutes sortes d'affaires qu'il y a dans ce monde, puis des fois, c'est plein de pas belles affaires qu'on pense. On voudrait être sauvé, on voudrait faire partie des sauvés, d'avoir la vie éternelle, mais Jésus dit, mets ça en pratique, puis tu vas l'être. Puis il n'y en a pas un qui a réussi à mettre tout ça en pratique, sauf Jésus, bien entendu. Merci Seigneur. La Bible le dit. Il est venu vivre une vie sur la terre, puis il a vécu sans péché. Il a été tenté en toutes choses, la même chose que nous, mais il a commis aucun péché. C'est le seul qui a pu mettre en pratique d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, puis d'aimer son prochain comme il s'aime. Il l'a mis en pratique. Il était en communion avec Dieu. Les commandements, là, tout ce qu'on voit dans la loi, c'est une révélation de Dieu dans l'ancienne alliance qui nous assurait de vivre d'une manière à plaire à Dieu. Si on aurait vécu ce qui était écrit dans la loi, on aurait pu plaire à Dieu et avoir la vie éternelle. Si, un gros si, il ne faut pas l'oublier, si on aurait eu réussi à vivre tout ce qui était là. Là, la loi était là pour nous montrer que quand on met ça en pratique, on est en train de plaire à Dieu. On est en train de faire la volonté de Dieu. Puis il fallait que tu mettes tout en pratique, toute ta vie, pour réussir à vraiment plaire à Dieu. Puis de nous maintenir en communion avec lui. Parce qu'à partir du moment que tu fais un péché, tu viens d'avoir une séparation. Les péchés, on a vu la semaine passée que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu produis des péchés, ça produit la mort en nous. Fait que même si tu as pratiqué toute la loi d'aimer Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, puis d'aimer ton prochain comme toi-même, si tu as fait ça toute ta vie, sauf une seule fois dans ta vie, j'ai manqué ma chatte aujourd'hui, je viens de pécher, tu viens de tomber à transgresseur de la loi, condamné par la loi, impossible que tu puisses être sauvé. Fait qu'en partant, on est tous déperdus. On a tous transgressé la parole de Dieu. Chercher Dieu puis marcher en communion avec lui est étroitement relié avec notre manière de vivre. Tu peux pas dire « je cherche Dieu » puis tu es en train de pratiquer adultère. Tu peux pas. Tu es dans le péché. Tu peux pas dire « je cherche Dieu » puis tu comptes des menteries, puis tu voles, puis tu prends le stock qui est aux autres puis tu l'amènes chez vous. Tu peux pas penser que tu es en train de chercher Dieu tout ton cœur quand tu es en train de te mettre à genoux devant une statue d'un faux Dieu. Parce qu'il n'y a pas de statue du vrai Dieu. C'est impossible de faire une statue du vrai Dieu. C'est impossible de se représenter le vrai Dieu. Dieu est esprit. Il remplit l'univers au complet. Fait qu'on n'a jamais eu un point de recul assez grand pour faire une, pour voir le visage de Dieu, disons. Si tout l'univers est à l'intérieur de Dieu, faut prendre un point de recul assez loin pour réussir à voir Dieu dans sa pleine grandeur, pour arriver à se faire une image de Dieu. C'est impossible. Fait qu'à chaque fois que les gens se mettent à genoux devant une statue de quelconque, ils sont en train de pécher contre Dieu. Ils sont en train de transgresser le premier ou le deuxième commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, puis tu ne te prosterneras pas devant des statues puis des images. » Ça, c'est des péchés graves parce que c'est les 10 commandements. Puis si t'en aurais fait juste une transgression toute ta vie, t'étais perdu. Fait que dire qu'on cherche Dieu, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, c'est cette relation-là, pour arriver à ça, mais ça dépend comment tu vis. Si tu vis tout croche, c'est impossible de le vivre. Puis on a tous péché, tout le monde. Puis la Bible, elle nous le dit dans Romains 3:10, que c'est impossible à l'humanité d'atteindre, de vivre une vie sans péché. Puis ça nous le dit dans Romains 3:10, de 10 à 18. Il dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Il y a juste, à part Jésus, là, l'ensemble de l'humanité, pas même un seul. Même le pape, il est pécheur. J'espère que j'apprends pas une mauvaise nouvelle. C'est un homme comme moi et vous. C'est un humain. Même le pasteur, il est pas parfait. Aucun pasteur sur la planète est parfait. Aucun prophète, même les prophètes de Dieu les plus intègres, en font. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. On serait supposé être à la recherche de chercher Dieu. Puis nul ne cherche Dieu. Personne n'arrive à vivre de rechercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il dit leur gosier, là, leur bouche, là, leur gorge, mais c'est un sépulcre ouvert. Un sépulcre, c'est un tombeau, une tombe. C'est comme si c'était un cercueil ouvert, puis il sort toutes sortes de pourriture de notre bouche. Régulièrement, que la Bible nous dit, ça nous dit, ils servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un aspic, c'est un serpent. On a sous nos lèvres du venin de serpent, puis on dit souvent des choses qui déplaisent à Dieu. Notre bouche est pleine de malédictions puis d'amertume. Puis on a les pieds légers pour répandre le sang. Des fois, on n'osera pas le faire physiquement, mais on dans nos cœurs, quand on haït quelqu'un, c'est comme si on l'aurait tué. C'est ce que la Bible nous dit. Fait qu'on a haï des gens dans notre vie. On était tous des meurtriers. La destruction puis le malheur sont sur leur route. Puis ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il existait un chemin de la paix, mais on ne le connaissait pas, le chemin de la paix. Il y a juste Jésus qui l'a trouvé. Puis la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voyez-vous, frères et sœurs, dans ce passage-là, ça nous parle comment est-ce que l'humain, dans sa nature humaine, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de dire « je vais gagner mon ciel ». Parce que même à partir du moment que tu diras « moi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais aller à ma religion, puis je vais la mettre en pratique au complet, de A à Z, tous les jours. » Même ça, il n'y arrivera pas.
Non, c'est impossible.
Il n'y a pas un humain qui est capable, autant que tu avais la nature d'en faire avant, même si tu auras une bonne volonté aujourd'hui, tu vas en refaire d'autres des choses qui déplaient à Dieu toute ta vie. C'est dans ce contexte que ces versets-là, ils prennent un sens, là, dans le Proverbe 5, 21-23. Parce que faut pas penser non plus que peut-être que Dieu m'a oublié, j'aurais pas besoin d'être jugé, je vais pouvoir passer à côté. Dieu ne voit pas vraiment ce que je fais, je peux me cacher, puis faire mes petites affaires à cachette, puis là, personne ne me voit. Ouais, puis je vais pouvoir dealer avec, moi négocier avec pour réduire peut-être ma sentence. Il dit, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Dieu voit tout ce qu'on fait. Quand il nous a dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, c'est parce qu'il nous avait examinés. Il a vu notre vie, notre conduite, comme il a vu celle de tout le monde qui est venu au monde depuis Adam et Ève. Il n'y a pas un qui a pu vivre à part de Jésus, bien entendu. Il dit, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Chaque décision qu'on prend, chaque chemin qu'on prend, il nous observe, il nous voit, il est toujours là en train de nous regarder. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Ses péchés au méchant l'ont capturé. Nos péchés nous ont capturés. On est pris dans nos péchés. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra, le méchant, le pécheur, nous, on était tous des morts, il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, la Bible a déclaré, on est tous des pécheurs. Mais il faut chercher Dieu. Mais on est tous des pécheurs. C'est impossible pour nous de mettre en pratique. Il faut chercher Dieu quand même. Mais le méchant va mourir faute d'instruction. Pourquoi vous pensez qu'il va mourir faute d'instruction? C'est parce que Dieu a donné une révélation qui est comme semi-caché. C'est pas caché complètement, parce que c'est écrit noir sur blanc dans sa nouvelle alliance. Mais il a donné une révélation, est écrit là, qu'on peut quand même recevoir le pardon de nos péchés. On peut quand même, malgré notre état, s'approcher de Dieu, puis le trouver, puis de le chercher, puis il va se laisser trouver, puis il va nous conduire dans notre marche, malgré notre état. Maintenant, là, depuis le Nouveau Testament, là, maintenant être à la recherche de Dieu, là, c'est de rechercher dans la révélation du Nouveau Testament comment Dieu veut qu'on s'approche de lui. Il nous a déjà dit qu'on est tous des pécheurs. Mais ça dit que le méchant va mourir faute d'instruction. Quelle est l'instruction qu'il faut que j'aille chercher qui va faire que je mourrai pas? Il a dit, si tu mettras tout ça en pratique, tu vas vivre. On a manqué notre coup. Quelle autre instruction j'ai besoin de savoir pour m'en sortir? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Tout est écrit. Lire la Bible, c'est le commencement pour y arriver à découvrir. Dieu va se révéler, si on cherche, même si Dieu sait qu'on est pécheur. Il sait, puis il nous l'a déclaré, puis il a dit que c'est impossible pour nous de lui plaire. Il veut quand même qu'on continue à rechercher Dieu, à rechercher sa face, à rechercher, à découvrir ce qu'il a écrit comme un peu... Peut-être pas évident pour tout le monde de trouver ce que Dieu a écrit pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés puis d'avoir la vie éternelle sans même qu'on le mérite. Mais quand même, chaque être humain est perdu et tous doivent s'approcher de Dieu par la foi. Dans Hébreux 11:6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » En premier, dans le commandement, ça dit, « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, de ta force. » Puis là, tu vas être sauvé, tu vas avoir la vie éternelle, tu vas vivre une vie qui plaît à Dieu. Mais là, on s'aperçoit dans ce passage-là que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu est en train de nous montrer qu'il y a quelque chose qui peut quand même plaire à Dieu, malgré que tout est détruit puis que tout est perdu. Il y a quand même quelque chose qui va plaire à Dieu dans notre vie. C'est pas le fait qu'on est meilleur, qu'on a réussi à tout mettre en pratique. On l'a pas, ça. On est perdu. Il nous dit dans ce passage-là, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu est en train de nous mettre sur une piste qu'il y a une instruction que je dois apprendre, qu'il y a quelque chose qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui pourra être dans ma vie qui va plaire à Dieu après avoir péché toute ma vie? La foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc, si je veux commencer à chercher Dieu, puis je veux, pas juste le chercher, je veux vivre d'une manière qui lui soit agréable.
Par la foi.
La foi. Faut que j'apprenne à marcher par la foi. Puis ça va commencer à plaire à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Puis il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, cherchez l'Éternel de tout votre cœur, c'est encore là, faut que tu le cherches. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament, quand on sait qu'on est tous des pécheurs, qu'on a tous manqué notre coup pour le chercher, pour lui plaire, mais il est en train de nous mettre sur une piste que tu peux plaire à Dieu si tu as la foi dans ta vie. Si tu as la foi, si tu crois que Dieu existe, puis tu crois qu'il va, il est le rémunérateur, il est celui qui est capable de te donner un salaire, même si en fin de compte, tu ne le mérites pas. Que Dieu nous dit dans sa parole que tu peux t'approcher de lui, tu peux chercher Dieu. Puis si tu vis par la foi dans ta recherche, tu vas plaire à Dieu. On est sur une piste, frères et sœurs, là. Il dit, le méchant, il meurt, c'est parce qu'il a faute d'instruction. Mais la parole du Nouveau Testament nous dit, marche par la foi malgré que t'es pécheur, puis tu vas commencer à plaire à Dieu. Reconnais qu'il y en a un Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est révélé à travers la parole dans l'Ancien, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui s'est révélé à travers Jésus. Crois, approche-toi de Dieu en croyant. Ça plaît à Dieu. Être à la recherche de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est d'accepter sa révélation. Parce que si tu dis, je crois que ce Dieu-là est là, ça c'est un bon point, c'est le point de départ. Tu démontres ta foi. Mais si tu dis, moi je crois pas à ce qui est écrit dans la Bible, mais là tu es en train de démontrer que tu crois pas à ce que ce Dieu-là a dit. Fait que tu es en train de démontrer que tu es incrédule. Si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu aies la foi. Si tu dis que tu as la foi et que tu veux t'approcher de Dieu, tu vas vouloir connaître ce que ce Dieu-là te dit, puis quand tu t'approches de lui, tu commences à lire ce qu'il a dit, puis tu commences à découvrir. Quand tu cherches, tu as la foi, tu commences à lire, là tu découvres ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. Il dit, il faut accepter sa révélation, ce qui s'est révélé à travers Jésus. Le salut, dans la Bible, quand tu fouilles un peu, le salut, le fait d'être sauvé, n'est donné que par le sang de Jésus. Ça, c'est une vérité que tu peux pas passer à côté de ça. Tu crois que Dieu existe, tu as commencé à avoir la foi. Tu t'approches de Dieu, tu vas lire sa parole, puis tu vas découvrir que le salut n'est que par le sang de Jésus. Dans Colossiens 1:20, ça nous dit, « Il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. » Parce que ce tout-là, c'est nous autres. Il a voulu nous réconcilier avec lui. Tout le monde, parce que tout le monde était perdu. Il a voulu donner une chance de tout le monde soit réconcilié avec Dieu, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. C'est le sang de Jésus qui était versé à la croix qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, qui nous permet de s'approcher de Dieu avec confiance, avec assurance. Sans le sang, ce qu'on a à présenter à Dieu, c'est nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a à présenter à Dieu? Que du péché. que des désobéissances. On était tous des perdus. Puis là, on pense de dire, je vais mériter le ciel.
Non.
Il n'y a aucunement. On ne pourra jamais mériter le ciel. La révélation de Dieu nous dit que le salut est uniquement dans le sang de Jésus. Ça, c'est sa révélation. Fait que si tu t'approches pour plaire à Dieu, là, tu as une lueur de foi qui est née en toi. Tu crois que Dieu existe, puis tu veux le connaître, puis tu veux ses récompenses. Fait que tu t'approches de lui, mais automatiquement, tu vas te ramasser devant la Bible qui te dit, faut que tu acceptes sa révélation. Ça va te dire, il y a juste le sang de Jésus qui peut te sauver. Fait que là, faut que ta foi soit mise dans les bonnes affaires. Là, tu écoutes les gens, comme on disait tantôt, les méchants vont périr faute d'instruction. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas dans quoi mettre leur foi. Là, ils prennent des crucifix, ils prennent des statues, ils prennent des photos, des images, le cœur de Jésus. Ils mettent n'importe quoi, ou dans d'autres religions, c'est carrément d'autres dieux. Ils vont se faire une statue d'une vache, puis ils vont se mettre à genoux devant ça. Ils cherchent. Mais ils savent pas. Ils vont périr parce qu'ils mettent pas leur foi dans les bonnes choses. Faut que tu crois ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. C'est là qu'est la Nouvelle Alliance. Puis dans ça, ça nous dit, il y a le salut n'est que dans le sang de Jésus. Jésus était le sacrifice que Dieu a fait. L'agneau de Dieu qui est venu pour verser son sang, pour enlever le péché du monde. Si on croit en Jésus, qu'on croit que ce sang-là a été versé pour moi, je peux le recevoir par la foi, gratuitement, c'est un cadeau que Dieu va te donner là, parce que tu ne le mérites pas. Il va te donner d'être pardonné de tous tes péchés, instantanément, pas parce que tu es tombé une meilleure personne, pas du tout, juste parce que tu as la foi pour être sauvé, tu as la foi dans la bonne affaire, tu as mis ta foi dans le sacrifice de Jésus. Tu dis, moi, j'y vais au ciel, pas parce que je suis meilleur, j'y vais parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Jésus l'a fait pour moi, il a payé sur la croix ce qu'il fallait, son sang est versé, puis il a été présenté à Dieu son Père, puis par le sang de Jésus, je suis sauvé. Merci Seigneur. Alléluia. Dans Romains 5, les versets 9 et 10, ça nous dit, à plus forte raison donc, maintenant, nous qui sommes justifiés par son sang, on est devenus des justes par le sang de Jésus. À cause qu'on a été devenus des justes par le sang de Jésus, on va être sauvés par Jésus de la colère à venir. Parce qu'il y en a une colère qui s'en vient. Où est-ce que Dieu va juger le monde? Parce que le monde ont crucifié son Fils, puis ils l'ont rejeté. Pourtant, Dieu voulait tous les sauver, tout le monde. Il voulait sauver tout le monde. Quiconque croit, c'est ce que Dieu nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde pouvait recevoir la vie éternelle en croyant. Quiconque croit, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu. Quand tu mets ta foi dans le sacrifice, tu vas avoir la vie éternelle. Tu gardes ce cadeau-là, puis tu le maintiens toute ta vie. À cause du sang de Jésus, je suis devenu juste. À cause du sang de Jésus, je suis sauvé de la colère à venir. Parce qu'on était des ennemis, on était réconciliés avec Dieu, ça nous dit au verset 10. Par la mort de son Fils que ça nous a permis d'être réconciliés. Pensez pas que vous étiez chum avec Jésus avant de venir à lui. On était tous perdus, puis on est devenus réconciliés en passant par Jésus. Il y avait une grande séparation entre nous et lui avant. On pouvait pas obtenir ce qu'il y avait, mais à cause de son sacrifice, on peut maintenant être réconciliés. Puis maintenant qu'on est réconciliés, on est sauvés par sa vie, par son sacrifice, par son sang. Merci Seigneur d'avoir tout accompli. Maintenant, là, dans le Nouveau Testament, pour rechercher Dieu, un des premiers pas, tu veux chercher Dieu, un des premiers pas, c'est de confesser que tu crois. Je l'ai dit tantôt, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans reconnaître la révélation qui nous a donné dans la Bible, ça nous dit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Sans reconnaître ça, mais là, tu crois en quoi? Tu crois dans n'importe quoi d'autre? Ça sauve pas les n'importe quoi d'autre. Ce qui peut te sauver, c'est la foi dans le sacrifice. Fait que le premier pas quand tu veux être sauvé, tu veux dire aujourd'hui que tu cherches Dieu, reçois sa révélation. Reçois ce qu'il te dit, ce qu'il t'a annoncé. Prends-le pour toi. Saisis cette vérité-là par la foi. Confesse-le de ta bouche que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi. Faut que tu le confesses. Faut que tu le dises. Il y a un passage comme dans Romains 10, le verset 9, qui nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Faut que tu y crois, puis faut que tu le confesses de ta bouche. C'est pas la seule place que ça nous parle de ce verset, d'un verset semblable. Dans Actes 8, 36 à 38, ça nous dit aussi la même chose. Ça nous parle de l'histoire de Philippe, qui est un évangéliste, qui rencontre un eunuque. Un eunuque, c'est un serviteur de la reine d'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il s'en retournait, mais il n'avait pas encore compris la révélation, pour comprendre comment faire pour être sauvé. Là, Dieu a guidé Philippe pour aller voir ce gars-là, pour y expliquer le plan pour être sauvé. Ils ont fouillé dans la parole de Dieu, ils ont tombé sur un passage qui parlait de Jésus, puis là, il a expliqué tout ce qui en était, que le salut était par Jésus. L'eunuque voulait être sauvé. Il voulait faire partie des élus. Il voulait avoir la vie éternelle. Puis il voulait tout de suite le recevoir. Il ne voulait pas attendre plus tard. Des fois, tu n'as pas le temps d'attendre plus tard. Si tu remets ça au lendemain, tu n'es même pas sûr que tu vas être encore vivant. Puis tu vas passer à côté de ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te le donner au moment que tu l'entends puis que tu y crois. Si tu n'as pas encore saisi cette révélation-là, il faut que tu le saisisses aujourd'hui même. Il y a un verset qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le temps du salut. L'autre, il est là dans Actes 8, 36, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Là, l'eunuque voulait s'engager à suivre Jésus. Il voulait être sauvé, puis il voulait se faire baptiser d'eau, parce que tous les disciples, quand ils se convertissent au Seigneur, ils se font baptiser d'eau. Puis, comme on va l'expliquer un peu plus tard, dans une autre réunion, le baptême d'eau, c'est d'être enseveli dans l'eau complète. Comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans la rivière, dans l'eau complète. Le mot baptême veut dire immersion. T'es immergé, ça veut dire que l'eau faut qu'elle passe complètement par-dessus toi. Tu sois complètement mouillé. C'est pas deux, trois gouttes d'eau. C'est aspersion. Le mot baptême veut dire immersion. Puis là, lui, ce gars-là, il voulait se faire baptiser d'eau. Il voulait s'engager à suivre Jésus. Là, on voit dans Actes 8, le verset 36, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Puis l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Fallait que premièrement qu'il ait la foi de tout son cœur. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, il fallait qu'il y croit. Ça veut dire, c'est la croyance qui doit remplir notre cœur. C'est la foi qui doit remplir notre cœur. Si tu y crois dans tout ton cœur, t'es pas sauvé par l'amour, t'es sauvé par la foi. L'amour est un fruit après. Parce qu'il y en a, je l'ai entendu dans des églises, t'es sauvé par l'amour, c'est faux. T'es pas sauvé par l'amour. Même si tu seras la personne qui donnera tous ses biens aux pauvres, ça sert à rien. C'est pas ça qui sauve, c'est si tu as la foi. Non, c'est la foi tout simplement qui sauve. Même si tu n'as pas l'amour aujourd'hui, c'est pas grave. Va à Jésus, par la foi, saisis le cadeau, puis après ça, Dieu va t'en donner de l'amour dans ta vie. Parce que tu peux avoir été une personne qui n'aime plus personne parce qu'il est blessé, il est détruit, son âme est défaite. On n'attendra pas qu'il y ait l'amour pour pouvoir venir à Jésus. Il faut aller à Jésus par la foi. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible que tu deviennes chrétien, que tu te fasses baptiser. Il fallait qu'il y croie de tout son cœur. Qu'est-ce qu'il a répondu de sa bouche? Il dit, l'eunuque répondit, je crois. Il a confessé de sa bouche devant tout le monde, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Puis là, il fait arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, puis Philippe baptisa l'eunuque. Par après. Mais ce qu'on doit comprendre, quand que tu veux t'approcher de Dieu, tu veux chercher Dieu de tout ton cœur, il n'y a pas d'autre manière que de le chercher que par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Faut que tu croies. C'est par la foi que tu saisis le cadeau. Tu y crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Tu y crois de tout ton cœur. T'es prêt à y donner ta vie. Si c'est juste une croyance, je le sais qu'il est mort, mais ton cœur, il est pas là, tu seras pas sauvé. Ça, c'est pas la foi qui sauve. Les démons aussi croient que Jésus, c'est le Créateur. Ils savent, ils l'ont vu faire. Tu es le Saint de Dieu. Ils l'ont tous vu mourir sans croix. Ils savent qu'il est mort. Puis, ils n'ont pas la foi. Ils peuvent pas arriver à cette foi-là que nous, ça nous est offert de croire puis de le saisir. Parce que le cadeau de Jésus n'a pas été donné pour les anges, il a été donné pour les humains. Amen. C'est écrit dans Hébreu. On est béni, on est... Merci, c'est un privilège. Merci Seigneur de nous permettre de pouvoir... Ouais, une révélation. Le méchant périt faute d'instruction. L'instruction, vous devez savoir aujourd'hui que Jésus est mort pour vous. Puis que vous devez y croire de tout votre cœur, puis le saisir.
Le sang de Jésus-Christ
nous purifie de tout péché. C'est ça. Amen. Amen. Être à la recherche de Dieu, c'est après que tu l'aies reçu, parce que là, tu veux chercher Dieu. Il dit dans sa parole, tu y crois qu'il est là, mais il dit dans sa parole, mon fils a tout accompli, tu peux être sauvé. Tu mets ta foi, tout ton cœur, tu y crois, puis tu saisis ce cadeau-là. Tu dis, moi, je ne le laisse plus partir. Moi, je veux le suivre. Je l'aime, Jésus, je veux le suivre. Je l'aimais peut-être pas gros avant, je le connaissais même pas. Mais quand j'ai commencé à le connaître, puis je m'aperçois comment ce qui est, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, je veux être sauvé. Tout mon cœur saisit ce cadeau-là, puis je le laisse plus partir. Faut que tu t'arrives à cela. Ça, c'est la foi qui sauve. Puis tu vas garder toute ta vie, cette foi-là. Il faut que tu la gardes toute ta vie. Puis là, tu commences à marcher par la foi. Tu t'as reçu le cadeau. Après ça, c'est de demeurer dans sa parole, qui fait partie aussi de la révélation. Dieu, il veut voir que tu l'aimes. Autant qu'il t'a montré qu'il t'aime, maintenant c'est à moi de montrer que je l'aime. J'ai saisi le cadeau par la foi. Puis il me le donne par la foi. Merci Seigneur. Ensuite, ma vie, c'est de lui montrer que je l'aime. Comment je vais être capable de lui montrer que je l'aime? C'est ça. Quand on se met à lire le reste des écrits du Nouveau Testament, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un mode de vie. Un chrétien, ça a un mode de vie qui plaît à Dieu. C'est. Puis là, je veux vous comprendre la différence. T'es pas sauvé parce que tu commences à appliquer le mode de vie. Le mode de vie ne sauve pas personne. C'est ta foi qui te sauve. T'es sauvé par la foi en Jésus. T'as saisi le cadeau. Là, t'as trouvé la communion. Le contact se rétablit. Tu marches avec Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit t'est donné. T'es né de nouveau quand tu reçois le cadeau. Puis là, les autres pas, tu démontres simplement que tu l'aimes. Puis que tu veux plaire à Dieu, puis tu veux rester connecté, tu veux pas perdre ce contact-là. C'est plus précieux, ce contact-là, que n'importe quoi d'autre. Tu peux avoir plein de plaisir dans ce monde, mais il n'y a rien dans ce monde qui peut te remplir et te revêtir, puis te faire vivre des choses que le contact que tu as reçu à travers Jésus, le Saint-Esprit t'est communiqué, puis tu commences à vivre de quoi? Si tu n'as pas commencé à vivre quelque chose, va dans ta chambre, prie, confesse ce que tu crois, cherche la face de Dieu. Faut que tu naisses de nouveau, faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Puis là, après ça, il y a une assurance qui naît en toi. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. T'as une assurance qui est là, puis c'est tout produit par le Saint-Esprit. Ça se peut pas qu'une personne, après qu'elle l'ait reçue, qu'elle se dise, « Ben moi, je crois pas en Jésus. » Oui, ça peut arriver, mais Ça peut arriver si tu te laisses aller, mais ça, c'est pas le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur veut que tu t'accroches à sa foi, puis tu persévères jusqu'à la fin. Il dit, être à la recherche de Dieu, c'est de lui montrer qu'on l'aime en gardant la parole de Jésus. Faut que tu y montes. Jean 14, 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, puis mon Père va l'aimer, puis nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. Si tu veux montrer à Jésus que tu l'aimes, garde sa parole. Mets-la en pratique. Si tu tombes, demande pardon, relève-toi, continue à marcher. Dieu t'aime. Dieu, il vient rester chez vous. Dieu, il fait sa demeure chez vous. Maintenant, tu es un enfant de Dieu quand tu l'as reçu. Puis, travaille à augmenter ta foi. Cherche à connaître sa parole. Un autre passage qui est beau dans ce sens-là. Dans Jean 10, 26 à 30. Il parlait à des gens, il dit, vous croyez pas parce que vous êtes pas mes brebis. Mais mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Sommes-nous de ceux qui recherchent Dieu? Avons-nous compris c'est quoi le chemin? C'est par la foi. Tu réalises que le sacrifice est là, puis tu dis, je le veux, tu le confesses de ta bouche, puis là, il se passe quelque chose dans ta vie, elle commence à changer. Ta foi est mise dans la bonne affaire. Mais ça peut arriver qu'on ne l'ait pas reçu, qu'on n'ait pas encore fait la décision d'accepter Jésus. C'est ce qu'on est. On est là pour cela. Je vais faire un appel. Je vais l'offrir s'il y en a qui disent, moi, je le crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il a payé, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné de mes péchés. Mais je veux le recevoir, je veux l'accepter, je veux le confesser, je veux le dire à tout le monde que je le crois. Parce que je veux l'avoir, le pardon. Je veux l'avoir, la vie éternelle. Je veux l'avoir, le Saint-Esprit. Dieu veut vous le donner. C'est un cadeau qu'il va vous faire aujourd'hui même. Faites-le, la prière, avec tout votre cœur, comme l'eunuque l'a fait. Lui, il a dit qu'il a confessé de tout son cœur. Je le crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais faire une prière avec vous pour ceux qui veulent le recevoir. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. La Bible nous l'a dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous l'avez confessé, c'est pas devant moi, vous l'avez confessé, c'est devant Dieu. Dieu pardonne vos péchés. Il vous a maintenant donné le Saint-Esprit. Ça, c'est une relation qu'il faut que tu développes avec Dieu. C'est un contact que tu as avec Dieu. Tu l'as reçu, il te le donne. Cherche Dieu. Continue à chercher Dieu. Prie. Loue le Seigneur. Va dans une église où tu entends parler de la parole pour nourrir ta foi. Puis ta vie, elle va ne faire que changer. Tu te reconnaîtras plus. Puis merci Seigneur. Pardon?
C'est gratuit.
C'est gratuit, puis c'est accessible à tous ceux qui croient. Que le Seigneur vous bénisse.